Bonjour à tous, Gaëtan m'a déjà un petit peu présenté, mais juste pour compléter, en fait, moi j'ai fait des études en psychologie sociale. La psychologie sociale, c'est pas forcément très connu, c'est une discipline qui étudie vraiment les individus dans les groupes sociaux. Donc on va s'intéresser aux pensées, aux sentiments, aux émotions, aux comportements des personnes, mais influencées par la présence ou les interactions avec les autres. Et je me suis spécialisée dans l'environnement, alors là c'est encore moins connu, psychosocial dans l'environnement, c'est pas très connu au niveau professionnel. En gros, l'idée c'est qu'on étudie les interactions entre les êtres humains et leur environnement. Donc comment nous, êtres humains, on impacte l'environnement, et comment l'environnement, que ce soit naturel ou bâti, agit sur notre bien-être, nos émotions, etc. Du coup, en fait, j'ai d'abord travaillé en tant que chargée de mission développement durable dans une association, ensuite dans une collectivité territoriale. Et puis j'ai repris un doctorat en entreprise, donc depuis un peu plus de 2 ans et demi. En fait, j'ai répondu à une offre d'emploi d'un bureau d'études de Gaëtan qui est spécialisé dans l'efficacité énergétique des bâtiments, qui s'appelle Donc qui est un bureau d'études à Dijon, et qui avait fait une offre d'emploi pour recruter un doctorant en psychologie sociale. Donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée chez Litis, c'est en répondant à l'offre d'emploi. Et donc voilà, donc mon sujet de thèse, c'est les bâtiments tertiaires performants, mais du point de vue des occupants. Finalement, ce que j'étudie, c'est les comportements de protection de l'environnement au travail dans un bâtiment performant, et puis essayer de voir quels sont les différents facteurs, à la fois psychosociaux et puis liés au contexte de travail, qui vont influencer les comportements de protection de l'environnement au travail. Donc en fait, je vais vous présenter un petit peu quand même mes travaux, même si ce n'est pas forcément ça l'objectif, mais pour que vous puissiez vous saisir un petit peu de ce que j'ai fait et comprendre les tenants, les aboutissants. Donc, je vais vous présenter le contexte, un peu mes travaux, mes résultats, et puis les interactions, comment ça s'est passé dans l'entreprise. En ce moment, je suis encore dans l'entreprise, mais je vais quand même me permettre de vous dire les choses honnêtement. Alors du coup, juste pour commencer, pour situer un peu le contexte, la tour Elitis, ça a été mon sujet, mon terrain d'étude. C'est une tour qui a été construite en 2009 et qui avait pour particularité d'être la première tour de bureau à énergie positive au monde. Donc il y avait vraiment un gros travail qui avait été fait sur la communication. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas à Dijon, c'était assez connu, enfin, ça a fait beaucoup de bruit. Un bâtiment à énergie positive, c'est juste un bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme pour son fonctionnement. Et donc, juste pour vous donner un peu des éléments de contexte, au niveau des principes constructifs de la tour, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on verra par la suite que c'est aussi important que je vous explique un petit peu comment la tour est construite. En gros, c'est un bâtiment qui a misé beaucoup sur la réduction des consommations énergétiques au niveau du bâtiment lui-même. Donc, c'est un bâtiment qui va être très compact. En fait, il y a 10 étages qui tiennent là où les autres bâtiments n'en ont que 9. Donc il y a vraiment un effort sur la compacité du bâtiment. On a utilisé des matériaux qui ont une très bonne inertie thermique, genre le noyau central, c'est en béton. Il y a un escalier à double révolution qui fait qu'on a gagné de la place. Il y a 75% de surface vitrée dans tout le bâtiment, donc il y a beaucoup d'éclairage naturel. Ça limite l'utilisation d'éclairage artificiel. Mais le risque, c'est qu'en été, ça peut produire des surchauffes. Donc Elitis a créé un système de bouclier solaire qui permet de récupérer la lumière naturelle en évitant le phénomène de surchauffe en été. Donc ça, c'est un bouclier qui a été transporté du monde de l'industrie, adapté au monde du bâtiment et breveté spécialement pour ça. Ensuite, au niveau des systèmes qui ont été mis en place, il y a un système qui récupère les calories. En fait, nous, quand on travaille, on chauffe la pièce. Là, d'ailleurs, moi, je commence déjà à avoir chaud, j'ai la peine de commencer à parler. Et du coup, on a un système qui récupère les calories à la fois produites par les êtres humains et par les ordinateurs pour limiter les besoins en chauffage. Il y a une chaudière à granulés bois parce qu'il y a quand même besoin de chauffer en hiver, surtout qu'à Dijon, il ne fait pas toujours très chaud. On a des panneaux photovoltaïques sur le toit pour produire aussi de l'énergie. Un système de récupération des eaux pluviales. Enfin voilà, tout un tas d'éléments qui sont mis en place pour que le bâtiment consomme le moins d'énergie possible. Ah. Alors, il y a 10 étages, 33 mètres et demi. Disons qu'on a réussi en écrasant, enfin, je dis on, je n'ai pas participé, hein, en écrasant au maximum les faux plafonds ont été réduits. Là, pareil, ils ont fait appel à des sociétés spécialisées en Suisse pour faire ça, et on a réussi à rajouter un étage dans une hauteur de 33 mètres et demi.
Où se trouve ce bâtiment ?
À Dijon, oui. pour Laetitia Dijon. Et du coup, aussi une particularité du bâtiment, c'est qu'il y a 1600 capteurs partout dans le bâtiment, parce qu'il a été construit avec cet objectif d'être un espèce de laboratoire expérimental, donc de faire venir justement des gens en sciences humaines et sociales. Et ces capteurs nous permettent d'avoir une cartographie très précise des différents postes de consommation du bâtiment. On est capable de dire combien on consomme chaque poste de travail, l'électricité, la bureautique, etc., donc pour avoir une analyse très fine. Donc là, j'ai juste brossé rapidement. Il y a bien sûr plein d'autres choses sur les principes constructifs de la tour, mais c'était pour vous montrer qu'en fait, moi, quand je suis arrivée dans le bâtiment, ce que j'ai constaté en premier, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits sur les innovations technologiques, sur la technique, sur l'utilisation d'énergie renouvelable, donc un peu tout ce que je vous ai présenté rapidement. Du coup, ça, c'est des facteurs qui, pour les ingénieurs, sont assez rassurants, parce que c'est des choses qu'on contrôle, qu'on maîtrise. C'est la technologie, on maîtrise. Les facteurs humains, on maîtrise beaucoup moins. C'est plus incertain, plus incontrôlable, etc. Donc, en fait, moi, mon sujet d'étude, ça a été vraiment la tour Elitis, comprendre finalement quelle est la place des occupants dans ce bâtiment. Déjà, quel est leur vécu, leur ressenti, leur perception dans le bâtiment, mais aussi leur pratique. En fait, la commande d'Elitis, c'était de dire, voilà, on a fait un bâtiment qui a pour objectif d'être à énergie positive, et le discours, c'était de dire, il sera à énergie positive grâce aux occupants. Donc, il y avait un peu déjà cette démarche de prise en compte des usagers, et de dire, c'est un petit peu les occupants qui vont permettre d'atteindre l'énergie positive par leur comportement. Donc en fait, je suis arrivée dans le cadre d'un programme de recherche qui était déjà établi, où il y avait déjà le déroulé qui était un petit peu prévu, etc. Et les objectifs du programme de recherche, c'était vraiment d'essayer de comprendre les interactions entre le bâtiment et puis les occupants du bâtiment. Et moi, mon rôle, c'était également d'essayer d'accompagner, de sensibiliser, d'essayer de, s'il y avait besoin, d'accompagner les changements de comportement, etc. En fin de compte, ce que je me suis rendu compte au bout de plusieurs mois, voire un peu plus dans l'entreprise, c'est que finalement, eux, leur demande, c'était, enfin la demande implicite en fait de l'entreprise, c'était plutôt une demande d'image en fait, parce que le bâtiment Tour Elitis a été construit par l'entreprise Elitis. Donc l'idée, c'était que eux, ce bâtiment servait un petit peu de vitrine de leur savoir-faire, et donc il y avait un enjeu très important sur l'image, sur la communication, sur voilà, sur ce qu'on allait dire du bâtiment. Donc déjà, en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément être évident parce que l'entreprise se retrouvait un petit peu jugée partie. Donc moi, je suis arrivée en 2012, le bâtiment était construit depuis 2009, et je devais faire un programme de recherche de 3 ans, financé donc par Elitis, mais aussi par l'ADEME et par le PUCA. Alors le PUCA, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est le plan urbanisme, construction en architecture, donc c'est rattaché au ministère du Développement Durable. Et donc, pendant 3 ans, je devais faire un programme de recherche sur la tour Elitis. Donc, je vais vous expliquer un peu après ce que j'ai mis en place, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et puis les difficultés que j'ai rencontrées. Mais déjà, donc, pour commencer, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les bureaux d'études, mais plus généralement tous les professionnels du monde du bâtiment, en fait, ont ce besoin d'essayer de prévoir, de modéliser et d'anticiper les comportements des occupants. Donc souvent, nous, ce qu'on nous demande, c'est ça, c'est un peu comme ce que les ingénieurs font, ils font des estimations, ils font des modèles. Est-ce que vous, en psychologie sociale, vous pouvez nous dire, voilà, les occupants, ils vont faire comme ci, ils vont faire comme ça, et ça va entrer dans ce qu'on attend d'eux, etc. Donc juste pour vous dire un petit peu comment on peut répondre à cette demande-là, mais pas entièrement, on peut répondre parce que, effectivement, en psychologie sociale, l'idée, c'est qu'on crée aussi des modèles qui vont être des modèles de... plutôt des modèles probabilistes, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour que les gens adoptent un comportement que j'attends d'eux. Alors pour vous donner 2 exemples, je ne vais pas vous faire un petit cours, mais je trouve que c'est intéressant que vous ayez ça, puis ça pourra éventuellement vous servir. Donc c'est 2 modèles que moi j'utilise fréquemment et que j'ai utilisé là-bas à Tour Elitis, qui sont des modèles qu'on appelle cognitifs. Donc en fait, on essaie de voir ce qui se passe dans la tête des gens.
Donc, c'est là où je vais vous servir du petit tableau, juste pour... Il y en a un, le premier qui s'appelle le modèle d'Agen.
Donc en fait, à chaque fois, l'idée, c'est de dire, nous, on a un comportement et on veut comprendre pourquoi les gens, ils font ce comportement ou ils ne le font pas. En gros, dans ce modèle, on dit que la première chose, c'est l'intention. C'est-à-dire qu'avant d'agir, il faut que j'ai l'intention d'agir. Si je n'ai pas l'intention d'agir, ça paraît logique, je ne vais pas agir. Mais cette intention, elle est influencée par plusieurs choses.
qu'elle est influencée d'abord par l'attitude envers le comportement. Donc l'attitude, c'est finalement quelles sont mes croyances quant aux conséquences du comportement. Est-ce que je pense que les conséquences sont positives ou négatives? Voilà. Est-ce que finalement je suis favorable ou défavorable? Ça peut être n'importe quel comportement, ça peut être sur la protection de l'environnement ou sur d'autres choses. Donc il y a les attitudes, et après il y a aussi ce qu'on appelle les normes subjectives. Donc c'est là où on voit qu'on est dans de la psychologie sociale, parce qu'en fait on a les aspects vraiment purement individuels, et puis les aspects un peu plus sociaux. Les normes subjectives, c'est mes croyances quant à la vie des autres par rapport au comportement. Est-ce que je pense que les autres trouvent que c'est un comportement valorisé ou dévalorisé? Et quelle est ma motivation à moi à me conformer à la vie des autres? Parce que finalement, si les autres pensent quelque chose, mais que je m'en fiche de leur avis, ça ne va pas impacter mes comportements. Mais si c'est ma famille ou mes amis, ça va impacter mes comportements. Donc là, en fait, c'est un modèle qui nous permet d'essayer de voir, quand on fait par exemple des campagnes de sensibilisation, il faut peut-être agir sur l'attitude, essayer de rendre le comportement valorisé, et puis sur les normes subjectives par rapport à l'entourage. Donc on voit que l'entourage a aussi un impact sur le comportement des gens. Il y a un deuxième modèle qui est le modèle de Schwartz, qui complète un peu celui-là et qui s'intéresse plus précisément au comportement altruiste. Donc c'est toujours pareil, on se demande qu'est-ce qui va influencer le comportement, mais cette fois vraiment un comportement altruiste, donc un comportement qui prend en compte le bien commun. Donc là on est typiquement que dans les comportements, développement durable, environnement, etc. Et donc là, selon Schwartz, en fait, ce qui influence le comportement, c'est d'abord l'activation de ce qu'il appelle la norme personnelle. En fait, il faut que je me sente, moi, dans l'obligation morale d'agir. C'est-à-dire, je ne vais pas agir parce que j'ai une récompense ou j'ai peur d'une punition, mais je vais agir vraiment parce que c'est en accord avec mes convictions, avec mes valeurs. Et donc, j'ai vraiment intériorisé le comportement. Et cette norme personnelle, il y a différentes choses qui l'activent. Donc, il y a d'abord la conscience du problème. Si je n'ai pas conscience qu'il y a un problème environnemental, par exemple de pollution atmosphérique ou de changement climatique, je ne vais pas changer mon comportement. Donc il faut d'abord que j'ai conscience qu'il y a un problème et que ce problème va avoir des conséquences négatives, aussi bien à l'échelle de la planète, donc à l'échelle globale, qu'à l'échelle locale. Parce que souvent les gens se sentent un petit peu protégés, eux, dans leur petite vie quotidienne. Donc en fait, il faut se rendre compte de quelles sont les conséquences à l'échelle locale pour les individus. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on se rend compte que ces dernières années, les gens ont conscience des problèmes environnementaux, mais il faut aussi qu'il y ait ce qu'on appelle l'attribution de responsabilité. En fait, si je rejette la faute uniquement sur les autres, que je dis c'est le gouvernement, c'est les entreprises, c'est les producteurs qui sont responsables et c'est pas moi, du coup je ne vais pas changer mon comportement. C'est là où c'est un petit peu compliqué dans les campagnes de sensibilisation, parce qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, mais il faut leur permettre de faire le lien entre eux, leur comportement et le problème. Attribution de responsabilité. En fait, il faut qu'ils s'attribuent une part de responsabilité par rapport au comportement. Sinon, ils n'auront aucune motivation à changer leur comportement. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu, en fait, au niveau de nous, comment est-ce qu'on peut analyser ce qui se passe dans la tête des gens pour voir pourquoi ils vont être motivés ou au contraire démotivés à agir. Ça, c'est ce qu'on appelle des modèles cognitifs. Après, il y a aussi des modèles comportementaux. On va voir finalement comment on peut amener les gens à adopter certains comportements. Et donc là, celui qui est le plus connu, c'est la théorie de l'engagement. En fait, l'engagement, c'est une notion que tout le monde connaît, mais en psychosocial, c'est vraiment le lien qui unit une personne à ses actes. En fait, je ne suis pas engagée par ce que je dis, je peux dire des choses et ne pas les faire, mais je suis engagée par ce que je fais. Donc pour les questions d'environnement, de développement durable, en fait, ce qu'il faut, c'est amener les gens petit à petit à faire des comportements. Et plus ils vont en faire, plus ils vont se sentir engagés. Et c'est un petit peu un cercle vertueux. Et on a un certain nombre de facteurs qui augmentent cet engagement. Par exemple, le truc le plus facile à faire, c'est de donner le choix aux gens. En fait, s'ils sont dans un contexte de liberté, qu'ils ont le choix, ils vont faire le comportement parce que c'est eux qui l'ont décidé. Ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure pour la norme personnelle. Si finalement je le fais parce que je veux une récompense ou que j'ai peur d'une punition, ça ne va pas être efficace. Mais si les gens ont le choix, c'est eux qui décident de faire le comportement, ils seront d'autant plus engagés. Pareil, s'ils sont en public et que
Il lève la main, par exemple, devant les autres pour prendre la décision, ça augmente l'engagement. Parce qu'on lève la main en public, les autres nous voient, donc on est tous engagés. Le caractère explicite aussi, c'est-à-dire que s'engager à protéger l'environnement, finalement, tout le monde peut le dire, c'est pas très engageant. Mais si on dit, je vais, par exemple, je sais pas, moi, aller à la mairie chercher un stop pub pour le mettre sur ma boîte aux lettres, là, l'acte, il va être très explicite, et dans ces cas-là, l'engagement sera encore plus important. Et un des derniers facteurs, c'est le caractère irréversible de l'acte. C'est-à-dire, par exemple, à poser sa signature sur une charte d'engagement, ben, ça engage encore plus, parce que voilà, on a posé sa signature, on ne peut pas vraiment revenir en arrière, entre guillemets. Donc là, en fait, je vous ai juste parlé rapidement, j'espère que je ne vous ai pas ennuyé là-dessus, parce que ce n'était pas le but, mais pour vous montrer qu'on a des outils, on a des théories, des modèles, qui nous permettent d'essayer de voir ben, sur quels facteurs on peut agir dans nos actions quotidiennes pour essayer d'accompagner les changements de pratique. Alors là, du coup, ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'on n'est pas dans des modèles de prévision. En fait, on ne va pas pouvoir dire, voilà, parce que je sensibilise les gens et parce que je mets en place une procédure d'engagement, c'est sûr qu'ils vont agir comme ça. Non, on peut pas dire ça parce qu'il y a une grande hétérogénéité dans les personnes. Tout le monde est différent. Il y a les facteurs individuels, mais il y a aussi le contexte. On sait que le contexte influence vraiment énormément sur le comportement des gens. Donc on ne peut pas répondre entièrement à la demande des professionnels qui vont nous dire on va construire ce bâtiment, on veut que les gens ils dépensent le moins d'énergie possible. En fait, on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de solution miracle. Donc on peut mettre en place des choses pour essayer de sensibiliser au mieux et puis d'accompagner les changements. Mais on n'est pas dans de la prévision pure, on n'est pas dans des sciences dures en fait, on est quand même dans des sciences humaines. Et du coup, au niveau des méthodes qu'on utilise, ça va être des méthodes qui vont vraiment se baser sur les expériences de terrain. Donc on va aller faire des enquêtes, des entretiens, des questionnaires, aller voir vraiment ce qui se passe dans un contexte donné, qu'est-ce que les gens pensent, etc., pour mettre en place ensuite des interventions qui soient vraiment ciblées, avec quand même l'idée que ça puisse être généralisable à d'autres domaines, mais ce sera toujours en prenant en compte le contexte particulier dans lequel ça s'est passé. Et du coup, moi, au niveau de mon travail chez Elitis, en fait, j'ai adopté une démarche de recherche-action. Donc là, je ne vais pas trop en parler, je crois que Sylviane en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc l'idée de la recherche-action, c'est de faire à la fois une expérimentation scientifique qui va être vraiment conçue dans toute sa rigueur scientifique, mais sur des ensembles sociaux de la vie réelle. Donc en fait, finalement, en faisant une thèse en entreprise, j'ai des objectifs de connaissances fondamentales. Et j'ai aussi des objectifs d'action. Moi, mon idée, c'était justement d'aller sur le terrain et de montrer comment la psychologie sociale peut être utilisée pour mettre en place des actions et essayer de changer un petit peu les choses sur le terrain. La difficulté, donc déjà, c'est que, comme je vous disais, il y a un décalage entre les attentes de l'entreprise, en fait, l'image qu'ils avaient des sciences humaines et sociales, et puis la réalité de ce que moi j'ai pu mettre en œuvre. Et du coup, un décalage aussi entre la perception de ce qu'est la recherche et de ce qu'est l'action, et justement la recherche-action qui est un peu entre les deux. Mais c'est vrai que moi, dans mon entreprise, ils avaient tendance à penser que j'allais être dans de l'action pure, c'est-à-dire faire des choses qui allaient être tout de suite rentables, qui allaient pouvoir être utilisées tout de suite, qui allaient avoir des résultats assez rapidement, alors qu'une démarche de recherche, ça prend quand même du temps. Donc c'est plutôt des résultats qui vont être exploitables, mais plus sur le long terme. Et puis aussi un biais qui était apparu assez rapidement, qui concernait aussi une méconnaissance de la recherche, qui était que parfois on m'a fait des commandes en fait de certaines enquêtes en me disant on aimerait bien que tu ailles prouver que les gens sont satisfaits, etc. C'est-à-dire qu'on me faisait une demande d'enquête dont on connaissait déjà en fait les résultats. Donc là, c'était un peu compliqué, parce que ça s'est produit assez rapidement dès que je suis arrivée. Heureusement, comme ça, j'ai pu clarifier les choses. Je me suis appuyée sur le code de déontologie, j'ai dit, un code de déontologie, je ne veux pas faire n'importe quoi. Mais de leur dire que le principe, c'est que quand on fait une enquête, on peut avoir des hypothèses, mais on ne connaît pas les résultats. Sinon, on ne fait pas d'enquête, ça paraît logique. Donc pour vous illustrer, quand je suis arrivée, moi, mon idée, c'était de faire une recherche exploratoire. C'est-à-dire, moi, je ne connaissais pas grand-chose au monde du bâtiment. Donc l'idée c'était de voir d'abord comment les gens se sentent dans la tour Elitis. Donc j'ai fait des entretiens, j'ai fait 22 entretiens semi-directifs,
où je voulais aborder vraiment tous les thèmes. Voir, mon objectif à moi, c'était de comprendre qu'est-ce qui va influencer leur comportement et leurs attitudes et leurs ressentis. Donc aborder à la fois la qualité de vie au travail, le confort, les habitudes environnementales, la sensibilité des gens vis-à-vis de l'environnement, ce qu'ils font dans leur sphère privée, mais aussi, vu que c'est sur le monde du travail, bah, le monde du travail en lui-même. Donc, dans les entretiens, j'abordais rapidement, je leur disais, parlez-moi de votre entreprise, etc. Et donc ça a permis de cibler un petit peu les thèmes qui étaient importants pour les personnes et de construire un questionnaire qui, là, a été passé à tous les occupants de la tour. Donc, dans la tour, il y a Elitis, mais il y a aussi d'autres structures. Il y a des associations et d'autres structures. Et du coup, je voulais juste vous dire rapidement les principaux résultats qui sont ressortis. Oui.
Sur combien de personnes ?
Du coup, il y avait 120 personnes. En fait, c'est pas exactement toute la tour, parce qu'il y a aussi un restaurant et un cabinet dentaire. Donc eux, ils n'avaient pas des activités de bureau, du coup, ils n'ont pas participé. Puisqu'il y avait beaucoup de questions sur l'environnement de travail, etc. Et en fait, dans les choses intéressantes qui sont ressorties, déjà, on s'est rendu compte que le fait que les gens avaient de fortes attentes par rapport au bâtiment, parce que, comme je vous le disais, il y avait beaucoup de communication sur ce bâtiment-là, les personnes qui ont emménagé dans le bâtiment en avaient énormément entendu parler. Du coup, ils savaient que c'était un bâtiment nouvelle génération, avec plein de technologies, etc. Ce qui fait qu'ils étaient extrêmement exigeants, qu'ils avaient des attentes très élevées. Donc, ça a augmenté la perception d'inconfort et ça a augmenté les déceptions. Parce que finalement, les gens me disaient, nous, quand on arrivait, on pensait que tout allait être parfait. Et il y avait quand même des petites, surtout la première année, il y a des ajustements, il y a des choses qui ne vont pas, il y a un étage qui n'était pas raccordé au chauffage, donc en gros, ils n'étaient pas raccordés au réseau, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés à avoir 13 degrés, et là, ils se sont dit, c'est ça le BBC, c'est 13 degrés. Bon, après, ils ont compris qu'il y avait un problème dans la conception, donc voilà, mais en tout cas, la première année, le problème, c'est que les gens étaient très insatisfaits, en fait. Et finalement, moi, dans mes questionnaires, quand je leur ai demandé de relativiser, je leur ai dit, mais par rapport aux autres bâtiments où vous étiez avant, etc., ils m'ont tous dit, ah oui, non, mais en fait, c'est vraiment beaucoup mieux, c'est plus confortable, on a de l'espace, c'est lumineux, il y a beaucoup de lumière naturelle. Donc en fait, quand ils relativisaient par rapport aux autres bâtiments, ils disaient, c'est super, mais voilà, il y avait ce décalage entre leurs attentes et puis la réalité qui fait que la première année, c'était pas tout parfait. Pareil, une autre chose qui montre qu'on interprète, en fait, que le bâtiment, c'est pas juste un cadre bâti, c'est aussi comment les gens l'interprètent. Vu que c'était un bâtiment durable, pour les gens, en fait, dans leur représentation sociale, c'était associé à la verdure. En fait, le développement durable, c'est souvent associé à la nature. Donc les gens imaginaient qu'il y aurait des plantes partout, qu'il y aurait des arbres, que ce serait très vert. Et en fait, c'est pas le cas. À Dijon, la Tour Elitis, elle est dans un quartier d'affaires. Donc c'est très. Autour, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'espace vert. Donc là aussi, ça crée un décalage entre ce que les gens s'imaginent et la réalité, qui fait que voilà, il peut y avoir des déceptions. Et une autre notion qui est très importante et que j'ai trouvée sur plein de sujets différents, c'est le besoin de cohérence. En fait, souvent, les gens percevaient des contradictions, des choses qui n'étaient pas logiques. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais on pourra en discuter plus tard si vous voulez. Mais en gros, ils avaient vraiment ce besoin que les choses soient cohérentes. Par exemple, qu'il y ait de la cohérence entre les objectifs d'économie d'énergie et le confort des gens. Tout le monde disait, oui, il faut faire des objectifs d'économie d'énergie, mais c'est pas nous si c'est au détriment de notre confort, non, il faut quand même on est au travail, si on a froid, ça va pas, etc. Ensuite, sur tous les thèmes du développement durable, le problème c'est que les gens percevaient des incohérences, puisque la tour, elle a été focalisée sur les aspects énergétiques, vu que Elitis, c'est un bureau d'études sur l'efficacité énergétique des bâtiments, et les gens me disaient, on n'a pas pris en compte les autres aspects de l'environnement. Par exemple, je ne sais pas moi, pouvoir faire du sport, venir en vélo au travail, donc avoir un grand local à vélo, il y a 10 places pour toute la tour, un local à poubelle qui soit adapté, qui donne envie, tous les autres aspects, mobilité, déchets, etc., qui avaient été complètement oubliés en fait dans la conception du bâtiment, et les gens percevaient ça comme des incohérences, ils disaient, on a construit une tour à haute efficacité énergétique, mais pas à haute qualité environnementale. Et ça leur posait problème. Un besoin de cohérence entre les sphères privées, donc chez eux, et au travail. Il y a des choses qu'ils avaient l'habitude de faire chez eux qu'ils ne pouvaient pas reproduire au travail, notamment parce que dans la tour, il y a beaucoup d'automatismes. Comme je vous ai dit, la volonté des ingénieurs et des techniciens qui travaillaient sur la tour, c'était de contrôler au maximum toutes les consommations d'énergie, ce qui fait que les gens, finalement, avaient très peu de contrôle sur leur environnement. Donc, il y a des grandes surfaces vitrées, mais il n'y a pas de fenêtres. Parce que si on ouvre l'hiver, ça fait des déperditions, donc les gens ne peuvent pas ouvrir. quand ils ont l'impression qu'ils ne contrôlent pas leur environnement, que parfois ils ont envie d'avoir des courants d'air, ils ne peuvent pas. Tout est automatique, le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, ce qui fait que moi, sur mon espace de travail, je ne peux pas allumer et éteindre quand je veux, je ne peux pas monter le chauffage. Et comme je vous ai dit, les gens sont tous différents. Du coup, c'est une gestion centralisée sur tout le bâtiment qui fait qu'on ne peut pas individualiser et répondre aux exigences des uns et des autres. Donc là, les gens percevaient aussi un décalage parce que, par exemple, ils ont l'habitude d'éteindre la lumière chez eux quand ils sortent d'une pièce, ils ne peuvent pas le faire au travail. Et puis, ils voulaient aussi qu'il y ait de la cohérence entre, du coup, leur comportement à eux et ceux des autres. Finalement, là, on voit l'impact aussi des autres. Donc souvent, les gens me parlaient « Ah oui, mais les autres, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. » Donc aussi bien les collègues que les membres de la direction, la hiérarchie, etc. Et puis, l'impression aussi que les nouvelles technologies, il y avait beaucoup de nouvelles technologies, mais que ça rend l'appropriation un peu plus difficile. Là, je vous cite un exemple d'un entretien, une femme qui a dit « C'est un bâtiment qui est très performant au niveau technique, mais du coup qui n'est pas forcément évident à s'approprier pour tout le monde. » Il y avait un peu cette notion de technologie qu'on ne sait pas forcément comment ça marche, etc. Et pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, donc une femme de 50 ans qui dit « Si on part dans le tout automatique ou le tout technologique, on enlève quand même une part de responsabilité aux êtres humains. » Donc l'impression que le bâtiment fait à la place des gens et qu'il y a une contradiction parce qu'on demande aux personnes, on dit on va atteindre l'énergie positive grâce aux occupants, mais en même temps, quand je suis arrivée dans la toilette, je me suis dit, bon, quels vont être les postes de comportement sur lesquels quels vont être les gisements d'économie d'énergie, où est-ce qu'on peut grappiller grâce au comportement des gens. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait quasiment rien, en fait. Parce que finalement, vu que tout est automatique, il ne restait que la bureautique. Voilà, c'est le seul truc sur lequel on pouvait agir sur les gens, en gros. Donc ça, pareil, il y a un homme de 30 ans qui a dit « On veut rendre responsables les usagers sur leur comportement, mais on ne leur donne pas la possibilité d'agir. » Donc voilà. Et ensuite, quelque chose d'autre qui est intéressant dans les résultats, là, c'est plus lié à ma thèse, mais j'ai voulu comprendre, du coup, comme je vous disais, tout ce qui influence les comportements de protection de l'environnement au travail. Je me suis rendu compte qu'il y avait, bien sûr, tous les facteurs individuels, donc liés aux habitudes des gens, à leur attitude, à ce qu'ils sont, en fait, eux, mais aussi, comme je vous disais, une très grande importance du contexte, et là, notamment, donc, les normes sociales, c'est-à-dire ce que les autres font, mais aussi ce qui est valorisé de faire. Par exemple, il y a des gens qui travaillent à l'ADEME, et à l'ADEME, en fait, il y a une stagiaire qui avait un retour d'expérience très intéressant, parce qu'elle me disait « Ah ouais, non, mais moi, quand je suis arrivée, j'étais obligée, parce que de toute façon, tout le monde le fait, et puis alors, le midi, ils font tous attention, ils trient, ils mettent au compost, etc. » Donc elle me disait qu'elle n'était pas du tout sensibilisée avant qu'elle faisait. Mais elle me disait, mais là, quand je suis arrivée à l'ADEME, ils sont tous à fond, et du coup, je suis obligée, quoi. Je ne peux pas faire autrement, de toute façon, tout le monde... Donc voilà, l'impact des normes sociales et des comportements des autres. Et aussi, quelque chose qui était intéressant, c'est qu'on a vu l'impact du confort et de la qualité perçue de l'espace de travail. C'est-à-dire que, donc là, c'était grâce à des tests statistiques qu'on a fait par rapport aux réponses au questionnaire. On a vu qu'il y avait un lien significatif, donc ce n'était pas du hasard, entre la satisfaction des gens par rapport à leur espace de travail et leur comportement de protection de l'environnement. Après, grâce aux entretiens, on a pu essayer de donner du sens. En fait, les gens se rendaient compte que plus leur espace de travail était satisfaisant, plus ils avaient l'impression que leur entreprise se souciait de leur bien-être et de eux, en fait, en tant qu'être humain. Et donc, du coup, ils étaient d'autant plus motivés à agir, parce que le problème, c'est que comme on est sur le lieu de travail, les comportements de protection de l'environnement sont vraiment liés à l'entreprise, puisqu'on va agir pour protéger l'environnement, mais au travail. Donc du coup, on a vu ce lien avec le confort perçu de l'espace de travail. Et une chose encore plus inattendue, c'est qu'on a vu un lien entre le sentiment de justice au travail. Donc là, c'est une théorie qui s'appelle le sentiment de justice organisationnel. Très simplement, c'est est-ce que je me sens traité de façon juste ou injuste, aussi bien au niveau de mon salaire, de ce que je reçois par mon entreprise, mais aussi du traitement que j'ai, c'est-à-dire est-ce que je suis traité avec respect, avec politesse, avec considération, est-ce que j'ai de la reconnaissance pour mon travail, comment les procédures de prise de décision sont mises en place, est-ce que je peux donner mon avis ou pas. Et bien que tout ça, c'était lié à l'implication, enfin là aussi on a trouvé une corrélation, donc un lien significatif entre ça et les comportements des personnes au travail. Et en fait, moi, je m'attendais pas du tout à trouver ça, mais ensuite, quand j'ai creusé, il y avait plusieurs personnes qui me disaient, moi, quand je suis arrivée, j'étais super motivée, je faisais plein de choses. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont dans cette entreprise-là parce qu'ils ont des valeurs environnementales et qui, en fait, au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements dans l'entreprise et justement, là, le sentiment de justice, les gens se sentent plutôt maltraités, il y a des personnes qui me disaient, des trucs qui n'ont rien à voir, mais quand je suis arrivée, je prenais tout le temps les escaliers, je montais jusqu'au 6e étage à pied. Maintenant, j'en ai marre, je prends l'ascenseur, de toute façon, ils ne me traitent pas bien, je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts pour eux. Des gens qui, par ailleurs, sont très sensibilisés chez eux. Et là, je me suis dit, c'est quand même incroyable à quel point, du coup, le contexte de travail peut influencer sur ça. Alors, c'est là où ça a été délicat, c'est que, en gros, quand j'ai voulu présenter les résultats, je me suis dit, il faut que je présente le positif, il y avait plein de trucs très positifs, mais il faut aussi que je présente le négatif, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, aussi bien au niveau du bâtiment que voilà, de ce qui se passe dans le monde du travail, etc. Donc là, ça a été un petit peu compliqué parce que moi, on m'a dit, écoute, Delphine, tu es là pour travailler sur l'énergie, on ne comprend pas pourquoi tu nous parles d'autre chose. Donc, par exemple, les gens nous avaient parlé spontanément dans l'entretien quand je leur disais qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à l'énergie. Ils me disaient, ah oui, on imprime trop de papier, il y a trop de déchets, on ne recycle pas le papier, on n'a pas de poubelle de tri. Donc moi, j'ai dit à mes supérieurs, l'énergie, ce n'est pas déconnecté des autres sujets du développement durable, etc. Donc si vous travaillez sur l'énergie, plutôt que d'y aller comme ça, franco, puis dire aux gens, il faut que vous baissiez vos consommations d'énergie, je me suis dit, on peut travailler sur le reste. Si on travaille aussi sur le développement durable, si on travaille sur les relations avec les supérieurs, si on améliore la qualité de vie au travail, bah finalement, c'est un peu donnant-donnant dans l'entreprise. Si les gens voient qu'on les a écoutés, qu'on a répondu à leur source d'insatisfaction ou à leurs demandes, bah ils seront plus motivés ensuite pour répondre à nos attentes à nous, qui étaient comment diminuer les consommations d'énergie, en gros. Mais là, ça a été un petit peu compliqué, parce que déjà, tous les sujets qui traitent au monde du travail, en France, il y a une énorme frilosité des entreprises à parler de ça. Tout ce qui touche au management, les entreprises ont l'impression que c'est vraiment de l'ordre de leur intimité, leur gestion, et qu'on n'a rien à faire là-dedans. Donc moi, on m'a dit, mais t'occupes pas de ça. C'est pas ça qu'on attend de toi. Voilà, ces sujets-là, en gros, nous intéressent pas. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'énergie. Donc voilà. Donc là, il y avait un petit décalage entre. Donc au niveau de la communication, moi, l'objectif, c'était, je l'avais dit dès le début, c'était on enquête auprès des gens, ils nous donnent du temps pour participer aux entretiens questionnaires. Donc moi, ce que je voulais, c'était leur faire un retour. Ça me paraissait indispensable. Et le problème, c'est que je voulais que ce retour, du coup, soit le plus transparent possible. Et ça, j'ai pas pu le faire, parce qu'il y avait une grande peur au niveau de la direction, une peur que, en fait, de pas contrôler les résultats, une peur que ça sorte dans la presse, que ce soit mal interprété. En fait, pour eux, la moindre petite brèche pouvait être dangereuse en fait, pour l'entreprise. Et ça, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu débutante dans le sujet, un petit peu naïve, etc. Et je ne me rendais pas forcément compte des enjeux, enfin, qui étaient vraiment des enjeux d'image pour l'entreprise. Et du coup, il a fallu retravailler, en fait, réécrire un peu les résultats. Alors moi, j'ai mis un point d'honneur à ne rien transformer, mais juste trouver les bons mots pour présenter les choses de manière positive, en essayant de présenter, en fait, dire par exemple que le contexte de travail a un impact, sans dire que le contexte de travail est défavorable dans l'entreprise. Enfin, ça paraît logique, mais voilà, essayer de trouver un compromis pour à la fois faire passer des messages, mais sans que ce soit dangereux pour l'image de l'entreprise, en gros. Du coup, dans la continuité de ça, donc l'idée, c'était que moi, je fasse cet audit psychosocial pour comprendre les différents points qui sont importants, et ensuite mettre en œuvre un plan d'action pour répondre à chacun des plans. Donc moi, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un espèce de modèle pour dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est le comportement des gens. Bon, j'avais dit, du coup, sur le développement durable, pas que sur l'énergie. Et qu'est-ce qui influence les comportements? Donc on avait différents grands blocs, le confort au travail, les relations sociales, le contexte, le management, etc. Et en face de chacun de ces facteurs, j'ai mis des actions. En fait, l'idée, c'était de faire un challenge énergétique sur une année et d'être dans une dynamique ludique où chaque structure allait participer et de mettre en œuvre tout un tas d'actions qui auraient pour objectif, à la fin, d'obtenir une réduction des consommations d'énergie. Mais j'avais donc quatre grands axes. Un axe sur la communication, un axe sur les aspects énergétiques purs, un axe sur la qualité de vie au travail, et un axe sur ce que j'avais appelé la gouvernance. Mais où, du coup, dedans, il y avait aussi des choses, du management, etc. Le souci, c'est que du coup, j'ai passé pas mal de temps à faire ça, à faire des actions très précises dans chacun de ces axes, etc. À montrer que si finalement on jouait sur tous ces facteurs, on allait pouvoir éventuellement obtenir les résultats qu'on attendait. Le problème, c'est qu'en fin de compte, ce programme d'action n'a jamais été validé, parce que j'ai pas réussi, du coup, à faire comprendre pourquoi agir sur la qualité de vie, pourquoi agir sur la gouvernance, pourquoi. Et en fin de compte, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le programme de recherche sur lequel je travaillais a été abandonnée. Donc les conventions avec les partenaires ont été arrêtées avant la fin, parce que, en fait, moi, je me suis rendu compte que mon objectif, c'était vraiment de mettre en place des actions, améliorer le confort, améliorer la qualité de vie, changer les comportements, accompagner tout ça. Et le problème, c'est que l'entreprise, en fait, ne voulait absolument pas que je touche à quoi que ce soit. Enfin, parce que toucher à quelque chose, ça voulait dire que ça n'allait pas, que c'était négatif, etc. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plein de phénomènes qui ont fait que le projet n'était plus porté par l'entreprise. Déjà, on devait être 5 personnes à travailler sur le programme de recherche. La personne responsable du programme de recherche qui m'a recrutée a démissionné au bout d'un an que j'étais là. Donc, je me suis retrouvée parachutée à la fois doctorante et puis responsable du programme de recherche. On devait être 5, finalement, j'étais toute seule. Donc en fait, il y avait un décalage entre l'ambition du programme et les moyens derrière. Finalement, en fait, ils voulaient mettre le moins de moyens possible. Donc moi, je ne leur coûte pas grand-chose parce que les tests chiffres, c'est financé par l'Agence nationale de la recherche. Il y a des crédits d'impôt recherche, etc. Donc en fin de compte, c'était un petit peu d'avoir un salarié qui coûtait pas cher. Et moi, je me suis rendu compte qu'on voulait très vite me mettre sur plein d'autres sujets. Donc ça, je pense que c'est un peu le commun de toutes les personnes qui sont en chiffres. C'est que ce que je vous disais, c'est que l'entreprise a ce besoin de rentabilité. Et donc moi, dès que je suis arrivée, on m'a dit il faut faire des offres de services, il faut répondre à des appels d'offres, il faut faire des propositions commerciales, il faut travailler sur ça, ça, ça. Je me suis retrouvée à avoir de plus en plus de missions qui étaient certes très intéressantes, mais qui n'avaient rien à voir ni avec la recherche, ni avec ma thèse. Donc à un moment, j'ai dû dire stop, là, il faut arrêter, sinon je ne pourrais pas finir mes recherches. Et puis eux, en fait, le problème, c'est qu'ils étaient déjà passés à autre chose. C'est-à-dire que le sujet pour lequel j'ai été recrutée était de travailler sur la tour Editis. Sauf que la tour Editis a été construite depuis 2009, là on est déjà en 2014. Donc en fait, eux, ils voulaient me mettre sur d'autres projets, sur d'autres choses, et il n'y avait plus aucune mobilisation en interne sur ce projet-là. Ce qui fait que mon plan d'action, en fait, n'a jamais été validé. Je faisais des réunions qui étaient annulées, j'avais impossibilité de voir le président directeur d'Editis. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, en fait, tout le monde s'en fichait et que je n'étais pas du tout soutenue, que je me retrouvais vraiment dans une position d'isolement total. Et donc voilà, donc ça s'est soldé par on arrête, puisque personne, tout le monde s'en fiche finalement. Voilà. Et puis je partais sur des sujets qui ne les intéressaient pas forcément, alors que je leur avais expliqué comment, en agissant sur tout ça, on pouvait quand même atteindre leurs objectifs à eux. Donc tout ça pour dire qu'en fait, c'était un petit peu, au final, un gaspillage total de temps, d'énergie, aussi bien pour moi que pour eux. Parce que je me suis dit, tout le monde est perdant dans l'histoire, parce que si on avait fait ce que j'avais prévu, donc une année entière de challenge énergétique, etc., on aurait pu ensuite dire, voilà, on a une expérience, on sait qu'est-ce qui fonctionne, on sait qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on est conscient qu'il y a des choses qui vont bien dans la tour, qu'il y a des choses qui vont moins bien, on est conscient de nos erreurs. Et justement, c'est censé être un laboratoire expérimental, donc le but, c'était aussi... Donc ça aurait été vraiment, je pense, bénéfique pour tout le monde, et finalement, ils n'ont pas du tout saisi l'opportunité de faire ça, parce que voilà, pour différentes raisons que je vous ai un peu citées, des décalages, etc., des mauvaises compréhensions. Ouais, j'ai presque fini. Oui, du coup, tout ça pour dire que finalement, après, comment rebondir face à ça ? Parce que moi, c'était quand même ma thèse qui était en jeu, puisque ma thèse était basée sur des aspects fondamentaux de recherche, donc j'ai fait des expérimentations à côté, mais je voulais vraiment une thèse qui soit appliquée. Donc ces interventions étaient censées faire partie de mon travail de thèse, voir les comparer avant-après, voir les résultats, etc. Donc finalement, je me suis retrouvée un petit peu prise de court et à me dire, comment je vais faire ? Et mon idée que j'aurais dû avoir dès le début a été de finalement prendre du recul par rapport à l'entreprise et au bâtiment Tour Editis, puisque ma thèse à la base était centrée vraiment sur ce bâtiment-là. Et je me suis dit, il faut que je prenne du recul. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à faire des enquêtes ailleurs. Donc là, en fait, j'ai une grosse recherche que je viens de terminer qui consiste à comparer donc, des bâtiments classiques et des bâtiments performants. Donc j'ai au total une dizaine de bâtiments classiques et une dizaine de bâtiments performants durables auprès desquels j'ai fait des enquêtes au sein des personnes qui travaillent dans ces bâtiments pour reproduire un petit peu ce que j'avais vu dans la tour Editis, essayer de voir si j'obtiens les mêmes résultats ou pas. Et j'ai réussi dans ces enquêtes-là à réaborder toutes les questions qui sont un peu problématiques, mais qui sont, je pense, indispensables, liées au monde du travail. Et donc l'idée maintenant, c'est que je vois un petit peu comment tout ça interagit entre le bâtiment, entre les occupants, entre le monde du travail, de ce qui se passe dans l'entreprise, etc. Donc voilà, donc ça m'a permis de prendre un petit peu de recul et puis d'avoir d'autres terrains d'études, d'avoir des données un petit peu ailleurs, pour continuer et pour pouvoir aller au bout finalement de ma recherche. Mais là, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que du coup, je travaille dans mon coin et qu'en fait, il y a des problèmes d'organisation interne qui font que je n'ai pas vraiment de directeur. Enfin, j'ai un directeur qui n'est pas vraiment là, etc. Ce qui fait qu'en fait, là maintenant, il y a une espèce de distance qui s'est créée. Et donc, mon expertise n'est quasiment pas utilisée finalement par l'entreprise. Et mon contrat de travail s'arrête là fin mars. Et c'est un contrat de 3 ans. L'objectif normalement des thèses en entreprise, c'est éventuellement après de garder la personne, en tout cas qu'il y ait une certaine durabilité. Moi, mon contrat s'arrête et c'est fini parce qu'ils sont dans des contextes économiques un peu compliqués qui fait qu'ils ne recrutent pas du tout et qu'ils ne remplacent pas les gens qui s'en vont, etc. Donc en gros, fin mars, je vais partir et je ne sais pas comment ils vont se servir de ce que j'ai fait pendant 3 ans. C'est un petit peu frustrant parce que je me dis, ça ne va peut-être pas. Et de façon plus générale, je me rends compte qu'en fait, il y a un constat qui est que dans le monde du bâtiment, on a de plus en plus besoin des sciences humaines et sociales. Partout, j'entends dire il faut prendre en compte les occupants, il faut accompagner le changement, il faut, dès l'amont, prendre en compte les besoins, les attentes des gens, il faut co-construire, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de sous. Et qu'en fait, même si c'est de la matière grise, c'est du travail qui ne va pas forcément coûter cher, il faut quand même rémunérer les personnes, il y a quand même des moyens humains. Et donc, c'est là où c'est un petit peu délicat, c'est qu'en fait, il y a un décalage entre ce constat, on a besoin des sciences humaines et sociales, mais après, est-ce qu'on est prêt à payer quelqu'un pour venir réellement faire le travail dont on a besoin? Là, c'est pas forcément toujours le cas. Donc voilà, c'est là où c'est un petit peu, je pense, en train d'évoluer, mais il faut aussi continuer à prouver, enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut prouver comment cette expertise-là va être rentable, au final, pour les entreprises. Parce qu'il y a quand même des bénéfices qui vont être peut-être plus sur le long terme, mais qui vont être quantitatifs et aussi surtout qualitatifs en termes de bien-être, en termes de qualité de vie. Et finalement, on se rend compte que tout ça, c'est indispensable aussi à la productivité des salariés. Si finalement les gens ne se sentent pas bien à leur travail, ils vont être moins productifs, etc. Donc voilà, il faut arriver à trouver le juste milieu et à convaincre, en fait, à convaincre de l'intérêt de ces recherches en sciences humaines et sociales. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire.
Merci Delphine.